There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Eh oui, Popourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourrichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
C'était la veille de Noël et dans notre logis, tout le monde s'était endormi. Même les souris.
Devant la cheminée, les chaussettes étaient là, attendant l'arrivée du bon Saint-Nicolas.
Vous m'avez fait peur, non, non, du calme, non, 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 attendez.
Mais qui êtes-vous?
Santa Claus.
Tout était différent. Tous ces enfants sont devenus des adultes qui ont cessé de croire. Je perds mes pouvoirs magiques. Alors, pour le bien du réveillon de Noël, je prends ma retraite.
Je savais même pas que tu pouvais la prendre.
Je crois qu'il faut qu'on voit le reste du monde comme des gens normaux.
J'ai une liste des choses que je veux faire. Je voudrais parler avec un chauffeur d'autocar.
Wow, Sandra, je t'avais dit que j'étais différent ici.
Je suis ton père, c'est moi.
Je vais prendre un rigolocino.
Mettez du cacao au lieu du café.
Aussi un bonbon à la menthe si vous avez des morceaux de cookies et du sucre.
Un nom pour la commande.
Le Père Noël, Santa.
Ce boulot est déjà assez dur comme ça.
Oh, oh, oh.
Pour la première fois, je m'apprête à passer Noël avec ma famille.
De la farine, de l'eau, du sel et de la levure pour un produit d'exception. La baguette. Cet emblème français dans le monde entier, enfin mis à l'honneur par l'UNESCO. Ce matin, dans les boulangeries, on est forcément un peu chaud.
Vive la baguette et vive le bon pain. Le bon pain, oui.
On en est très content. C'est croquant, c'est croustillant, c'est bon, quoi.
Forcément, la baguette, le monde entier nous l'envie.
Ça représente la tradition de la nourriture française. On mange la baguette avec tout, avec un coq au vin, du fromage. C'est délicieux.
Plus que le simple produit, pour les boulangers, c'est surtout la fierté de voir leur savoir-faire artisanal reconnu. 6 milliards de baguettes sortent de nos fournils chaque année.
Merci. C'est là, c'est l'alvéolage. Je vous laisse déguster, c'est croustillant.
La baguette rejoint une liste déjà bien garnie du patrimoine immatériel de l'humanité français. Aux côtés des fest-noz, ces danses traditionnelles bretonnes, les repas gastronomiques ou encore les parfums de la ville de Grasse. Une reconnaissance qui va faire du bien à toute une profession aujourd'hui en déclin et qui espère, grâce à cette distinction, attirer toujours plus de nouveaux boulangers. 400 boulangeries disparaissent chaque année en France depuis 50 ans.
Dimanche 11 décembre 2022. Pour la saison des fêtes, Popourri Show se met au rythme de la solidarité et du partage. Et oui, l'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Adair avec vous depuis 35 ans sur www.cut.fm. Pour réécouter nos émissions où que vous soyez dans le monde, une seule adresse à popourishow.com. Et cette émission est réalisée en partenariat avec France 24, France Inter, Radio France Internationale et TV5 Monde. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. Eh oui, à ce nouveau rendez-vous, la fièvre du soccer, du foot, se poursuit. Qui sera l'équipe gagnante? Eh oui, faites vos pronostics, envoyez-nous vos messages à popourri@cut.fm. Eh oui, bonne nouvelle, nous approchons à notre objectif de 100 000 dollars fixé pour notre campagne de collecte de fonds. À ce jour, nous avons amassé 90 000 dollars. Il nous manque 10 000 dollars. Alors faites un don si vous ne l'avez pas fait encore, en ligne, en toute sécurité à Popourishow. Tous les détails sur cut.fm et cliquez sur le bouton Donate. Et n'oubliez pas d'indiquer Popourishow. Tirage au sort de plusieurs cadeaux et dont un voyage pour deux en Islande. Et merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont déjà fait un don à notre émission. Un merci spécial au docteur Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti à Toronto, pour son beau cadeau. Merci en pile, docteur. Au menu ce dimanche, beaucoup de surprises et de découvertes musicales. Eh oui, tel que promis la semaine dernière, nous ferons un détour au dernier salon du livre de Montréal avec nos fidèles invités immortels et chroniqueurs de luxe de la librairie francophone, l'écrivain québécois Dany Laferrière de l'Académie française, et sur le plateau pour un échange autour de l'identité et un entretien croisé avec l'auteur et journaliste d'origine inoue, Michel Jean, chef d'antenne, animateur, journaliste d'enquête et écrivain. Pénurie d'enseignants en Ontario et au Québec. Le nombre d'enseignants non légalement qualifiés a doublé en Outaouais. Eh oui. Écrit du cœur d'une future prof découragée, elle dit, je cite, « Cet examen de français n'est pas adapté à notre époque. » On en parle. Les journalistes de RFI menacés, le Burkina ordonne la suspension immédiate de RFI jusqu'à nouvel ordre. Les auditeurs présents au concert de Stromae ont capté sur le vif ce spectacle haut en couleur. Coup réussi pour Stromae. Ça y est, l'UNESCO inscrit la baguette française au patrimoine immatériel de l'humanité. La planète entière en a parlé, eh oui. Mais savez-vous où trouver de bonnes baguettes authentiques à la française à Toronto? J'ai la réponse. Écrivez-moi popourri@cut.fm et j'ai deux paires de baguettes pour vous. Il n'y a pas que la baguette qui est entrée au patrimoine immatériel de l'humanité. Tenez-vous bien, le rail algérien a enfin fait son entrée le jeudi 1er décembre au patrimoine immatériel de l'humanité. Et oui, c'est une énorme consécration pour ce genre musical séculaire, rendu célèbre à travers le globe dans les années 90 grâce à des artistes algériens comme Cheb Khaled, Cheb Hasni ou encore Cheb Mami. Et pour tout de suite, le magazine L'Accent des Autres. Le gouvernement suisse va-t-il davantage parler français? Le débat linguistique au Nouveau-Brunswick intéresse pas seulement les Canadiens, mais aussi nos collègues suisses, belges et français. Allez, L'Accent des Autres avec les chroniqueurs issus des médias francophones publics. Popourishow, 35 ans. On est toujours bien ensemble.
Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec L'Accent des Autres, les grandes lignes de l'actualité de ces derniers jours vues par les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, France Bleu, la radio-télévision suisse et la RTBF. Et on va commencer aujourd'hui avec cet important procès, celui de l'attentat de la station balnéaire de Grand Bassam. C'était en 2016, un procès qui s'est ouvert en Côte d'Ivoire, Nicolas Sûr.
C'est la première fois que des terroristes sont jugés par le tribunal criminel, l'équivalent de la cour d'assises. 19 civils avaient péri dans l'attaque de restaurants de plage dans cette station balnéaire réputée de la côte atlantique.
Le gouvernement suisse va-t-il parler davantage français? La question se pose avec l'élection mercredi prochain de deux nouveaux membres du collège, Pierre-Henri Chauffat.
Oui, parce que pour succéder à une alémanique, le parti socialiste propose un choix entre une germanophone et une francophone. Et la perspective d'une potentielle surreprésentation romande n'effraie pas plus que ça à Berne.
Le débat linguistique est aussi relancé au Canada. Ça se passe dans la seule province officiellement bilingue du pays, Benoît Day.
Oui, au Nouveau-Brunswick, où de récentes prises de position du premier ministre de la province ont fait sursauter bien des gens dans la communauté francophone.
En Belgique, le rail perturbé pendant 3 jours cette semaine, un double mouvement de grève, Jacques Crémers, pour dénoncer les conditions de travail du personnel.
Oui, cheminots et conducteurs dénoncent en effet une surcharge de travail, mais ils critiquent aussi l'insuffisance des investissements définis par le gouvernement fédéral.
Enfin, nous reviendrons aussi sur la récente présentation de la nouvelle promotion des astronautes européens. 3 hommes, un Belge et un Suisse notamment, et 2 femmes, dont une Française qui a toujours rêvé d'espace, vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire de cette semaine. À propos de langue encore, l'inquiétude des francophones du Nouveau-Brunswick au Canada. Depuis plusieurs mois maintenant, le premier ministre de la province maritime envoie des signaux inquiétants lorsqu'il s'agit de questions linguistiques, Benoît.
Oui, tout d'abord, le premier ministre Blaine Higgs est un unilingue anglophone. Son élection en 2018 a représenté un certain recul pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick, puisqu'il s'agit du premier unilingue à occuper ses fonctions depuis longtemps. Les francophones représentent environ le tiers de la population au Nouveau-Brunswick.
Alors précisément, la minorité francophone est en colère à la suite de récentes décisions du gouvernement.
Oui, Blaine Higgs a nommé un ministre anglophone hostile au bilinguisme au sein d'un comité chargé de réviser la loi sur les langues officielles. Et plus récemment, il a annoncé son intention d'abolir le programme d'immersion française qui permettait à des anglophones d'apprendre les rudiments du français. Le premier ministre veut lancer un tout nouveau programme dès la rentrée en septembre prochain, mais les détails de ce nouveau programme ne sont toujours pas connus.
Et les tensions linguistiques au Nouveau-Brunswick ont des échos jusque dans la capitale fédérale, Ottawa.
Oui, les députés libéraux fédéraux du Nouveau-Brunswick ont pris position en faveur des francophones dans ce débat. Le premier ministre Justin Trudeau a aussi abordé le sujet avec son homologue Blaine Higgs. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick s'est défendu en disant que le gouvernement fédéral devrait avoir d'autres chats à fouetter, comme la hausse du coût de la vie.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En Belgique, d'importantes perturbations sur le rail. Donc cette semaine, 3 jours de grève au total et 2 mots d'ordre consécutifs qui traduisent, Jacques, un profond malaise.
Le premier mot d'ordre a été déposé par le Front commun syndical, le second par un syndicat de conducteurs. Tous dénoncent une dégradation des conditions de travail des cheminots, principalement en raison d'un manque de personnel, comme l'exprime ce conducteur.
On arrive à des surcharges de travail qui deviennent impossibles, une cadence infernale. Voilà, les collègues sont fatigués, n'ont pas leur congé, on n'arrête plus, on n'a pas de pause. On crée des nouvelles procédures de départ pour que le train puisse démarrer qui ne fonctionne pas, qui fonctionne qu'à moitié. Donc ça incite des dépassements de signaux qui sont d'ailleurs en augmentation avec tout ce que ça implique pour le conducteur. Donc je pense qu'il y a un moment, il va falloir se remettre à table et revenir à des choses concrètes pour améliorer la sécurité de tous en tout cas.
Du côté de l'entreprise, on déplore la grève, mais on ne nie pas les problèmes, notamment parce que le matériel est vieillissant, ce qui engendre plus de pannes et moins de ponctualité. Et même si le gouvernement fédéral a décidé de dégager 3 milliards d'euros sur une période de 10 ans lors du dernier conclave budgétaire, pour les syndicats, c'est insuffisant. Un contexte difficile donc qui n'empêche pas l'entreprise de se montrer ambitieuse. Ainsi, Sophie Dutordoir, la CEO, projette une augmentation de 30% des voyageurs dans les 10 prochaines années.
On fera tout brique après brique, brique avec brique, pour restabiliser le système et pour donner aux voyageurs la qualité qu'ils méritent au niveau de l'offre, au niveau de l'accessibilité des gares, au niveau du renouvellement du matériel, au niveau d'une tarification attrayante.
Et justement, un peu à contre-courant, le conseil d'administration a récemment décidé d'augmenter les tarifs au 1er février prochain, ceci en raison de la crise de l'énergie et de l'indexation des salaires, une décision nécessaire, a dit l'entreprise, mais un mauvais signal, a réagi le ministre de la Mobilité.
Et autre mobilisation en Suisse, cette fois celle des maçons, Pierron, et elle a payé dans le secteur de la construction.
On avait évoqué ici les mouvements de grève et les manifestations des ouvriers du bâtiment. Et en effet, Olivier, après 9 rondes de négociations, patronat et syndicats ont trouvé un accord pour prolonger la convention collective de travail avec des concessions des 2 côtés. Les salaires, notamment, devraient augmenter de 150 francs par mois.
Enfin, nous allons revenir un moment pour se quitter sur la récente désignation de celles et ceux qui font partie depuis peu de la nouvelle promotion de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, de nouveaux astronautes et parmi eux un Suisse, un Belge et une Française. Elle s'appelle Sophie Adnaud. À 40 ans, elle marche sur les traces de Thomas Pesquet et sur les traces aussi de son idole, une autre Française, Claudie Aigneret, et ils sont donc 5 au total, Eric Valmire.
3 hommes et 2 femmes parmi près de 23 000 candidats. La Française Sophie Henault, 40 ans, officier de l'armée de l'air, première femme pilote d'essai d'hélicoptère. L'annonce de sa nomination a été faite depuis le Grand Palais à Paris et applaudie en direct à la Cité de l'Espace à Toulouse, où se trouvait également Alexandre Vaux de France Bleu Occitanie.
La température est montée d'un cran quand le nom de Sophie Henault a été cité par la présentatrice de la cérémonie. Sophie Henault, 40 ans, originaire de la Nièvre, en Bourgogne, fille de notaire et d'une maman pharmacienne. Cette mère de famille, prof de yoga et adepte des sports en plein air, a suivi sa formation d'ingénieur chez Supaéro à Toulouse, l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, comme Thomas Pesquet. Son modèle a d'abord été son grand-père, mécano dans l'armée. Sophie Henault, elle commence sa carrière en concevant des cockpits pour les hélicoptères d'Airbus, devient d'ailleurs la première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France. Mais la jeune femme rêve de voler, rêve qui se réalise à 23 ans avec l'armée en Afghanistan où elle vole pour récupérer des pilotes éjectés lors des combats. Sophie Henault vole aussi pour le président ou les ministres. Un univers d'hommes pas toujours bienveillant selon elle, mais qui lui donne l'énergie pour réaliser son autre rêve, l'espace.
Et c'est Sophie Becherel qui a recueilli au Grand Palais la réaction de Sophie Henault.
C'est un moment assez incroyable. J'ai toujours rêvé en fait du spatial depuis très longtemps. Ma sœur me dit souvent en plaisantant, elle me dit mais quand t'étais petite, le seul poster qu'il y avait dans ta chambre, c'était un poster d'une fusée. Donc oui, j'y pense depuis un petit bout de temps.
Vous avez eu des modèles ?
Absolument. Je ne serais jamais arrivée là si je n'avais pas eu de modèle. J'avais 14 ans lors du premier vol de Claudie Agnoret. Et là, ça a été un réel déclic. Un déclic pour faire de la science, de la technologie à haut niveau. Et puis, c'était parti. Après, j'ai eu des professeurs d'école fantastiques qui m'ont aidé à avoir confiance sur ce cheminement. Et c'était parti.
Voilà, c'est parti pour les 5 nouveaux astronautes, donc européens, depuis une dizaine de jours. France Bleu et Eric Valmire referment l'accent des autres cette semaine. Les médias francophones publics vous fixent rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, comme d'habitude, avec Radio-Canada, RFI, France Bleu, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Excellente fin de semaine.
France 24 vous propose Les Observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifiés par les journalistes de France 24 et publiés sur notre site. Les observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les observateurs, ce sont eux, c'est lui, c'est elle, et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.
Bonjour à tous les enfants, et bonjour aux adultes aussi, bien entendu. Noël, c'est bientôt. Ici, en Laponie, les lutins et moi aussi, nous avons encore une multitude de choses à faire. J'imagine que toi aussi, tu es déjà en train de penser à Noël. Ici, au bureau de poste du Père Noël, nous prenons tout le temps qu'il faut pour trier et lire la montagne de lettres que les enfants du monde entier nous envoient.
Dans les parties de bureau, on entend chanter les gueulements. Dehors, les lumières clignotent pendant que les secrétaires grignotent.
Avec une de mes secrétaires, je vais commettre l'adultère. Ma femme n'est pas invitée à danser tout nu dans un autre party.
En bas de zéro, en
en bas de zéro, c'est ben maudit, c'est tout sur la carte de crédit.
Hey, hey, quand tu vas t'acheter un sapin, t'acceptes de t'en faire passer un. Tu le décores, il est aux anges, mais c'est pas long qui est au vidange. Messe de minuit, y'a le curé qui m'ennuie. Les femmes chantent Alléluia, les hommes chantent à quoi belle femme. Pour affronter la bourrasque, tout le monde a apporté son flasque. C'est la fête du petit Jésus, mais même le petit Jésus s'en rappelle plus.
Solo! Oh, oh, oh.
Où tu vas en bas? Déjà!
Après c'est l'échange de cadeaux, tu fais semblant d'être aux oiseaux. Quand tu reçois de ton beau-frère un paire de gants et je te lève.
Ma tante Aline est dans le sud-est pour tromper sa solitude. 3000 piastres pour 8 journées, c'est juste là qu'elle s'est faite pourrir.
Information, tout le monde en parle.
Fake news.
Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout pour vous tromper.
Retrouvez l'édition spéciale d'Info Intox lundi dans Paris Direct sur France 24 et France24.com.
CIUT 89.5 FM. The sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France, c'est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festivébène, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie France en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez. Si vous songez un jour, vous installez dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Vêtu ses trois couleurs.
C'est fait, les Bleus sont champions du monde!
Incroyable!
Deuxième étoile!
Du spectacle, énormément de suspense, la beauté du foot.
Et c'est Trump! Exceptionnel frappe d'Antoine Griezmann! La puissance, elle est toujours là!
Dans ces moments-là, c'est plus fort que soi. Il y a des joies que l'on ne contient pas. Il y a des larmes que l'on ne retient pas.
Coupe
du monde de football 2022. Un événement à suivre dès le 20 novembre sur TF1.
Eh oui, Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête tout au long de l'année, en ligne ou en salle. Restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco. Allez sur le site de cinéfranco.com et découvrez la diversité des cultures francophones. Ciné Franco, le plus important festival international de films francophones à Toronto depuis 1997. Soyez-y. Bonne fête à Ciné Franco. Ciao, ciao, ciao.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfou. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Une première à Toronto, Ménage à Trois, un spectacle de drag queen hilarant, du jamais vu. Eh oui, avec DJ sophistiqué, looks flamboyants, écran géant, chorégraphie bien rodée, rythme pop endiablé, avec trois drag queens, une fois par mois, au Drink Cocktail and Pizza Bar sur la rue Church. Inscrivez-vous à notre infolettre à popourri@cut.fm et courez la chance de gagner un coupon cadeau de 25$ gracieuseté de Drink Cocktail and Pizza Bar sur la rue Church, au sud de la rue Maitland. Un endroit caché, et oui, au deuxième étage de la rue Church, au cœur du village gay. Ménage à trois, trois drag queens, une soirée en français, une fois par mois, une première à Toronto. Retrouvez les dates des prochains spectacles sur popourrichaud.com. CUT 89,5 FM et Popourri Show, 35 ans de fierté.
J'attendrai. Je bois.
Toute l'équipe de la radio vous souhaite un merveilleux Noël solidaire, rempli d'amour, de santé, de bonheur et d'espoir. Bonne et heureuse année 2023. CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises. Le monde en bref. Et oui, des élèves de plusieurs conseils scolaires du Grand Toronto dénoncent les violences et les conditions déplorables dans leur école. Ils fustigent notamment un environnement d'apprentissage dangereux et l'inaction du conseil scolaire. Le Festival du film LGBTQIR Montréal a remis dimanche dernier le prix du meilleur court-métrage canadien au film Forlac du cinéaste acadien Julien Cadieux. Forlac est un film muet en noir et blanc, racontant les ébats amoureux de deux hommes qui se rencontrent en bordure d'une plage.
Et je vous rappelle que Franco Queer vous invite à son grand gala de fin d'année le samedi 17 décembre à 18h au Fort York 250 Fort York Boulevard. Et oui, ouvert aux personnes LGBTQIA+ et toute personne sympathique à la cause. Plusieurs invités seront au rendez-vous, des drag queens francophones de Toronto que nous connaissons très bien, Jezebel Bardot et Sophie Stiquet seront à l'animation. Au programme Performance de drag en camp silencieux, artistes locaux, karaoké, buffet, tombola, DJ, danse, remise de prix et bien d'autres surprises. Une excellente occasion de se retrouver en communauté, de célébrer tout ce que nous avons accompli et surtout de passer un bon moment ensemble. Sans tarder, je vous invite à découvrir tous les détails et réservez vos billets sur la page Eventbrite de l'événement francoqueer.ca, francoqueer.ca ou encore popourichaud.com. Et maintenant, place à la librairie francophone avec Emmanuel Kerrade, qui était avec toute son équipe, l'équipe de France Inter, au Salon du Livre de Montréal, qui s'est tenu du 23 au 27 novembre dernier. Plus de 2000 auteurs, autrices, dont beaucoup d'écrivains franco-ontariens, étaient au rendez-vous. Et je salue en passant mes amis partenaires de la maison d'édition Prise de Parole qui m'ont envoyé plusieurs livres, et oui, les nouveautés littéraires, de vraies petites perles. Excellente idée cadeau, madame, monsieur, pour les fêtes. Allez visiter prisedeparole.ca. Place au Salon du Livre de Montréal, un salon du livre plus dynamique que jamais. À vous, cher Emmanuel Kerrade de France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
Radio Télévision Suisse, Radio Canada.
Et bonjour à tous, c'est le grand retour de la librairie francophone en public au Salon du Livre de Montréal. Nous avons soutenu ce salon même dans les pires moments de la crise sanitaire. Mais la dernière fois ici devant vous, c'était en 2019. Bonjour Montréal. Oh là là, quelle ambiance. Formidable. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone. Emmanuel Kerrade.
On est très heureux de vous retrouver. Un grand merci pour votre fidélité. Nous serons avec notre fidèle invité immortel et chroniqueur de luxe de la librairie francophone, Dany Laferrière de l'Académie française. Et sur notre plateau, pour un échange autour de l'identité et un entretien croisé avec l'auteur et journaliste d'origine Innu, Michel Jean, qui est là aussi. Vous entendrez une nouvelle voix de l'humour québécois qui mérite de se faire entendre à travers toute la francophonie. Mariana Mazza a publié un livre poignant et caustique qui raconte sa vie. Elle met l'ambiance déjà, elle jouera un extrait de ce livre ici même en direct entre la performance et la confidence. Nous recevrons Dominique Fortier, prix Renaudot 2020 pour les guides de papier. Elle se raconte dans un nouveau récit, elle évoque aussi le deuil et sa notion du bonheur qui va peut-être vous faire réagir. Et puis des petites surprises tout au long de l'émission, restez bien à l'écoute. Et nous commençons cette émission avec l'événement francophone de la semaine. Aujourd'hui, évidemment, c'est le Salon du Livre de Montréal avec deux invités. Bonjour Olivier Goujon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes le directeur de ce Salon du Livre de Montréal. Merci beaucoup pour votre accueil.
Mais merci d'être là. Merci à tout le monde, au public. Merci à vous de revenir année après année et à nous soutenir même dans les pires moments pandémiques.
Exactement. L'année dernière, c'était une édition transitoire. On était là, nous avions fait une émission adaptée, transitoire aussi, en raison du Covid. Cette fois, ça y est, le Salon du Livre de Montréal a vraiment repris, on peut dire ça.
Je pense que le salon est en plein envol. Il n'a pas encore atteint son zénith. Ici, au Palais des Congrès, on est encore un peu en pandémie et on est entouré d'une clôture à cause de la COP15 qui va s'installer. Donc, ça crée quelques remous. Mais devant nous, on a la preuve, le public est là et les auteurs, les autrices aussi, on est très, très, très heureux.
Bon, il y a eu une belle initiative cette année. Depuis le 11 novembre, vous avez fait vivre le salon dans la ville avec plein d'événements dans différents endroits, des librairies, des lieux culturels, des instituts étrangers. Le livre a animé la ville comme jamais. Quel est votre bilan de cette expérience?
Encore une fois, c'est une expérience qui est en mouvement, qui est en plein essor. On veut que le livre anime la ville encore plus année après année. C'est la fête du livre, c'est la fête de tous les livres. Le Salon du Livre de Montréal est un salon qui accueille les visiteurs et les auteurs, les autrices, mais c'est pas tout le monde qui se sent interpellé par un événement comme ça. Parfois, il y a des gens qui préfèrent être dans leur quartier, et c'est très bien aussi. Donc, on va aller à leur rencontre. Donc, le bilan, il est plutôt positif.
Bon, une nouvelle présidente aussi pour ce Salon du Livre de Montréal.
Oui, la grande Caroline Fortin.
Cette semaine, Caroline Fortin, voilà, que l'on salue, qui est aussi la directrice d'une grande maison d'édition.
Oui, Québec-Amérique, qui est, par hasard, la maison d'édition de Mariana Mazza.
Oui, alors on n'a pas fait exprès du tout, mais c'est très bien. Merci Olivier. Voici un entretien croisé de grand luxe avec deux grandes personnalités de la littérature. Et bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça va, Dany?
Oui, ça va très bien. Et je voulais ajouter à ce que disait Olivier Goujon. Je l'avais rencontré, on a parlé du salon. Il m'avait dit qu'il y aura des espaces où les gens pourront se vautrer même, littéralement, lire et discuter un peu. Et j'ai vu qu'il a tenu promesse et c'est magnifique, votre salon, monsieur.
Merci beaucoup, Dany. C'est vraiment le salon de tout le monde.
Bon, nous allons parler identité avec vous, Dany, un thème qui a jalonné votre œuvre, que l'on retrouve aussi plus largement dans votre dernier livre, Dessiné dans la splendeur de la nuit. Être écrivain, c'est un peu s'affranchir de la question d'identité, c'est s'ouvrir à toutes les racines, à toutes les origines.
Oui, c'est aller partout. Je crois qu'un écrivain traverse les frontières de pays et les classes sociales aussi. C'est une liberté que nous ne devons pas perdre. Il ne faudra pas que ce soit uniquement les écrivains, les poètes qui traversent les frontières de classe ou de race ou de pays. Il faudra que ce soit tout le monde, c'est-à-dire le lecteur.
Ouais. Bonjour Michel Jean.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vos romans sur votre famille.
Salut tout le monde.
Et la condition des Inuits connaissent un grand succès à travers la francophonie. Koukoum, Tchoukiaké.
Excellent mois que je vois que vous avez fait vos devoirs.
J'ai progressé, ça va.
C'est bien.
Où le dernier paru à tout qui évoque l'ambivalence des Inuits face à leur identité. Il y a ceux qui cachent leurs origines et ceux comme vous qui décident de la revendiquer.
Ouais, parce que ça n'a pas toujours été facile de le dire simplement et d'être un autochtone au Québec et au Canada, parce que ça valait pendant des années blagues, mauvaises blagues, jugements aussi. Mais les temps changent et maintenant on est de plus en plus nombreux, non seulement à le dire, mais à l'affirmer, à revendiquer donc cette identité-là qui est à la fois différente et semblable. On vit sur le même continent, dans le même territoire, mais avec une histoire différente.
C'est étonnant parce que j'ai longtemps cru que Michel Jean était haïtien. Parce que tous ses premiers livres se passaient en Haïti.
Oui, c'est vrai, mais je trouve que les Haïtiens et les Inuits ont en commun beaucoup, notamment le fait de d'écrire, de raconter leurs histoires. Il y en a peut-être une parentalité. Vous êtes mon cousin.
Alors, lors d'une conférence à l'ambassade du Canada à Paris, que nous avions menée tous les deux, Michel Jean, nous avions parlé du racisme et de ces actes de violence inouïs dans la rue qui font des victimes autochtones. Il y a des Montréalais racistes, c'est ce que vous nous expliquiez, qui foncent en voiture sur des autochtones délibérément, et ça passe pour un simple accident.
Ouais, ben c'est arrivé pour vrai, ça. Puis au Canada, ça s'est produit. C'est-à-dire que souvent, on se rendait compte que d'abord, quand on vit dans la rue, on est plus victime à ce genre d'événement-là. Et puis souvent, il y a eu des Autochtones qui ont été soit frappés. Dans certains cas, c'était volontaire aussi. Dans certains cas, les gens disparaissaient et on choisissait des Autochtones parce que, comme on est plus nombreux dans la rue, les gens vont moins facilement dénoncer ou on va pas remarquer que la personne est là. Ça fait que de par leur précarité, beaucoup de ces Autochtones qui vivent dans la rue sont victimes de ces gens mal intentionnés. Et ça explique en bonne partie pourquoi il y a autant d'Autochtones qui se retrouvent disparus ou de femmes, autochtones notamment, qui disparaissent.
Et Dany Laferrière, dans votre roman « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mango », vous disiez à propos de la question amérindienne qu'il est déconseillé de l'évoquer trop souvent dans les soirées, par exemple, car ça jette un froid, c'est un sujet tabou.
C'est vrai que c'est un grand tabou, c'est un trou noir au Québec. Maintenant, on l'évoque aisément, mais je me souviens, on ne savait pas. Il y avait un malaise qui était lié à une ignorance totale d'un peuple qui vivait là, dont on ne savait pas comment l'évoquer. Et c'est toujours ainsi, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un poète, un romancier, dans le cas de Michel Jean, qui commence à dessiner le portrait réel et légitime de cette culture, de cette population. Pour qu'on sache comment l'évoquer, il faut ajouter aussi un éditeur comme Émoi d'Encrier donner le mouvement initial à cela.
Avec Joséphine Bacon, par exemple.
C'est intéressant dès qu'on parle de littérature aussi, dès qu'on parle de la vie quotidienne des gens. Et c'est par les lettres, c'est par les mots que se font les identités profondément.
Puis moi, je trouve que la littérature est un excellent véhicule parce que un roman, au fond, si on devient le personnage, on n'est pas obligé d'expliquer les choses. Vous les vivez telles que le personnage les vit. Vous le comprenez à travers les yeux du personnage. Et dans le cadre des questions autochtones, c'est particulièrement, je trouve, une bonne manière de parler aux gens parce qu'on n'est pas obligé de leur expliquer. Mmh. On leur raconte l'histoire et étant le personnage, moi, je reçois encore aujourd'hui, ce matin, des gens qui me disent « Je ne le savais pas, Monsieur Jean. Merci. » Alors, ce que ça dit, c'est comme Dany nous le dit, cette ignorance-là qui n'est pas due aux gens, qui est due au système où dans nos livres d'histoire, on n'en parle pas. Dans la télévision, on n'en parle pas. C'était simplement ignoré. Quand les gens savent maintenant, ils réagissent. Ils sont... Et je trouve que les Québécois, d'ailleurs, sont beaucoup plus ouverts que leurs dirigeants dans bien des cas.
Il y a dans les livres de Michel Jean des noms de gens. Je crois que la première chose qu'il faut arriver pour savoir qui est devant nous, il faut dire son nom. Et dans toutes les cultures du monde, dans tous les contes populaires, la question du nom, nommer l'autre, est la chose la plus importante. Je me souviens d'ailleurs d'une discussion que j'ai eue il y a longtemps avec un journaliste de la presse durant une sorte de grande réunion, colloque sur le journalisme. C'était l'idée du mot immigré qui était global. J'ai dit, mais vous pouvez pas appeler la personne par son nom. Il m'a dit, mais ils sont trop nombreux, on peut pas les nommer tous. J'ai dit, personne ne nomme tout le monde. Quand je parle à Jean, je parle à Jean. Quand je dis il pleut, par exemple, je ne veux pas dire il pleut sur la planète. Je veux dire il pleut à l'endroit où je me trouve. Donc, nommer les gens, et c'est ce que fait la littérature. Il nomme les êtres, il nomme les lieux, il nomme les émotions. Donc, le débat sur le nom est le débat fondamental, et le poète nomme.
C'est drôle que vous disiez ça, parce que je parlais avec ma cousine Jeannette, dont je parle dans Altouk, justement, puis elle me disait, quand elle a vécu les pensionnats autochtones, elle me disait, quand les gens me disent que je suis une survivante, j'aime pas ça. Je suis pas une survivante, je suis une vivante.
On va laisser la parole au public. Peut-être une question. On voulait vous donner la parole parce que, voilà, monsieur, vous allez me dire votre prénom, d'où vous venez.
Nommez-vous, monsieur. Nommez-vous, c'est important.
Rien à oui, c'est ça. Alors, mon nom. C'est une question d'identité. Allez-y, oui.
Guy Lafond.
Oui, bonjour, Guy.
Je suis québécois, je suis né à Montréal. Et la question est la suivante. Au Canada, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau de l'immigration. On a tous entendu dire que dans quelques années, on veut faire venir 500 000 immigrants par année. Et ça, c'est sans compter ceux qui rentrent illégalement à la frontière Roxane. La francophonie au Canada a toujours été un enjeu important. Vous parlez des Autochtones. Moi, je suis un Autochtone.
Non.
Ça fait 13 générations que je suis ici.
Non, c'est pas pareil.
Alors... on peut dire que je suis un immigrant, mais avec les générations qui passent, on peut dire que je suis aussi un autochtone.
Et quelle est votre question, alors?
Alors, moi, ma question, c'est, j'aimerais avoir votre opinion sur cette nouvelle politique d'immigration qui dit qu'on va faire venir 500 000 personnes par année. Comment on va faire pour les intégrer?
Alors, ça, c'est effectivement un débat dans beaucoup de pays, avec les migrants notamment. On en parle beaucoup en Europe. C'est une question qui mérite 3 heures d'émission, mais Michel Jean, Daniel Ferrier, vous avez une réponse en 30 secondes.
Je passe le ballon à Dani.
Ben, j'ai eu à discuter ça une fois avec le premier ministre Legault, c'était à Paris, et il parlait des chiffres. Vous dites 50 000, vous dites 500 000, comme vous voulez. Mais comment savoir que celui qui se présente au guichet de l'entrée au Canada n'est pas Dany Laferrière? Puisque moi-même, je ne savais pas que j'allais devenir un écrivain à ce moment-là. Donc, puisque nous ne pouvons pas distinguer les gens avant qu'ils ne fassent leurs preuves, nous ne pouvons pas les nommer en termes de chiffres. Dites-moi les noms des 500 000 qui vont arriver. On va les voir un par un.
Ouais, Michel Jean. Réponse, s'il vous plaît.
Et sur la question autochtone, simplement dire que, quand je dis non, c'est que, dans ça, moi, ce que je lis, il y a souvent un malaise de la part de beaucoup de Québécois francophones qui se sentent quelque part délégitimés quand on parle de présence autochtone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a personne chez mes amis autochtones que je connais qui pense qu'on va revenir ou qui s'oppose à quoi que ce soit. C'est simplement de trouver une manière que les deux puissent vivre bien ensemble. Et je dis, vous n'êtes pas un autochtone parce que vous êtes un Québécois, puis je suis aussi un Québécois et un autochtone. Mais c'est pas exactement la même chose. Vos parents n'ont pas été envoyés dans des pensionnats autochtones. Il n'y a pas un autochtone au Canada qui n'a pas quelqu'un de sa famille qui a vécu ça et qui vit aujourd'hui avec ces blessures-là. Et ça, ça fait de nous un groupe qui a une histoire et qui a un présent aussi qui est très différent aussi.
Voilà, le débat va continuer dans la salle. Merci beaucoup. Merci Michel Jean, merci Dany Laferrière. On renouvellera cette expérience avec des questions dans le public, mais on restera un peu plus longtemps. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'invités, donc on est obligé d'écourter. C'est très frustrant, mais on continuera ça bientôt. Dany Laferrière, il y a le petit traité sur le racisme qui paraîtra dans une nouvelle version augmentée et ajustée début 2023 chez Grasset. Et vous dites avoir écrit ce livre pour les jeunes lecteurs, pour ceux qui ont découvert le mouvement Black Lives Matter, par exemple.
tous ces jeunes gens qui ont une érudition politique des fois limitée parce que la ferveur du président de l'indicatif, c'est-à-dire l'actualité brûlante, fait en sorte qu'ils veulent dire ce qui se passe sous leurs yeux. Alors je le rappelle, des gens comme Frédéric Douglas, et qui était esclave et qui est devenu le plus grand orateur du 19e siècle américain. Je le rappelle, Billy Holiday ou Bessie Smith. Il faut nourrir les jeunes avec des informations précises et concrètes.
Bien, on découvrira ça dans ce livre. Il est déjà édité ici au Québec. Et puis dans La Splendeur de la Nuit aux éditions Point, dans une collection dirigée par Alain Mabancou. Je crois qu'on connaît. Michel Jean, donc Atouk, c'est chez Libre Expression et des paysages.
Exactement, France.
Parfait. Merci à vous. Merci Michel.
Merci.
Merci Dany.
Merci.
Émission spéciale, la librairie francophone au Salon du Livre de Montréal. Emmanuel Quérad. Émission spéciale, la librairie francophone au Salon du Livre de Montréal. Emmanuel Quérad. La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La chronique des libraires, seconde partie avec un coup de cœur en Suisse, Alexandre Dimitrievitch, avant le coup de cœur de Dany Laferrière. Alexandre.
Oui, voilà. Alors moi, je voulais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu. Il s'agit du Livre Bleu de l'auteur genevois Germano Tsulo et de l'illustratrice Albertine.
Ah oui, génial.
Un très joli livre pour enfants qui se déroule dans un univers mêlant mystère, poésie et découverte. Alors, en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est ces dialogues courts qui ont su faire vibrer quelque chose en moi d'assez profond. Voilà, je voulais ici rendre hommage à ces livres qui réussissent le tour de force de rassembler petits et grands devant les grands secrets de la vie.
Un grand auteur et illustrateur suisse, hein, Germano Zulo, Albertine, ils travaillent beaucoup ensemble. Le Livre Bleu aux éditions La Joie de Lire. Merci Alexandre. On termine presque avec Déborah Damblon en Belgique. Un coup de gueule avant Dany. Pas sur
oui,
Dany,
parce
de préférence.
Il y a quelque chose qui me désole, Emmanuel. C'est qu'il y a bon nombre d'éditeurs belges qui ne sont pas vraiment diffusés à l'étranger. Eh bien, ça a deux conséquences qui sont vraiment déplorables. La première, c'est qu'on ne trouve pas leurs livres à l'étranger. Et la seconde, c'est que ça fait d'autant plus rêver les auteurs belges de se faire publier en France.
Eh oui, et c'est vrai que des auteurs belges et des éditeurs belges ici au Salon du Livre de Montréal, il n'y en a pas beaucoup, vous avez raison. Bravo pour le coup de gueule, merci Déborah. On termine donc cette émission avec le choix de Dany Laferrière de l'Académie française, notre chroniqueur de luxe.
Oui, et c'est un livre de poésie, Passer l'hiver, de Kateri Lemens. Je sais très bien, vous êtes au Salon du Livre, vous précipitez sur les essais brûlants et magnifiques, les romans juteux, mais la poésie, vous passez à côté. Et si on faisait un jeu, si les gens pourraient aller demander au nos rois, Passer l'hiver de Kateri Lemens. Il n'y a que 2 exemplaires.
Non.
Tout le salon. On ne peut pas l'avoir. Mais si jamais vous ne vous contentez pas d'être paresseux et de dire il n'y a pas ce livre, je ne vais pas l'avoir. Vous le commandez chez Honora, vous allez dans les librairies. Vous me faites ce plaisir de mettre la poésie simplement pour jouer au-dessus de votre liste. Passer l'hiver. Kateri Lemens, faites de ce poète un best-seller parce que c'est une des meilleures poétesses du Québec.
Très bien, voilà, ça c'est dit. C'est presque un coup de gueule.
Wow. Hein,
c'est presque un coup de gueule.
Est-ce qu'il y a vraiment seulement 2 exemplaires? Parce que moi j'ai envie de me lever de cette table et d'aller le chercher.
Dany
en a pris un.
Non, je vais le remettre là-bas parce que je l'ai lu. Je vais le remettre là-bas.
Aux éditions Norrois.
Je voulais même le citer pour vous, mais bien. Je pense qu'on va voir.
Merci Dany.
Okay.
Dany Laferrière, c'est le seul à être capable de faire un coup de gueule et un coup de cœur en même temps.
Ouais.
C'est génial. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette émission.
Voilà, mon cœur est dans ma gueule.
Avant de conclure, le son de l'outre-mer avec un extrait d'une nouveauté musicale, Zili, originaire de Mayotte.
Asante sana, mwana mzuri sana. Dakodi nililozawa, dakodi desa.
chezao na mwana lotawa na machezo ya chezao asante sana mwana mzuri sana mashia kisalimu ule mwenyewe tumradinu mashia tujulila.
C'était Zili avec l'Aquilée que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram où je vous fais vivre ce voyage ici à Montréal, ce séjour autour du Salon du Livre pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince à Paris avec Annie Nocity Dubois et Charles-Antoine Lemay et Pierre Dulon ici à Montréal. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada, Elsa Pépin et Christophe Magère avec Alice Rouet. La semaine prochaine, nous serons avec le prix Renaudot 2022, Simon Liberati et le groupe Les Ogres de Barbac pour une grande séquence jeunesse dans le cadre du Salon du Livre de Montreuil, entre autres. Merci, bon week-end, merci Montréal, merci beaucoup, à bientôt.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adre bella cosa, dingue da.
Non, dingue da.
Écoutez la planète chanter.
Eh, oh, c'est pas bientôt fini. Tout ce boucan, ce vacuum, y'en a qui dorment la nuit. Pas moyen d'arrêter les repartis dans mon crâne. Les marteaux piqueur dans mon cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose. Pas ma dose, plus de concert, pas de concert, pas rien. La leçon qui revient. Et ben tant pis, ou pire que dans ce minuit blanche, mes idées noires, et si l'espoir brille par son absence. Let it shine. J'ai perdu le soleil. Let it shine. J'ai gardé le soleil dans ma tête. Et si le monde allait gérer le planète, on va lui voler dans les plumes. Oh, let it shine. Tant qu'il nous reste un rayon de la lune. C'est peut-être le moment que les hommes qui pensent qu'à leur pomme à courir après tout ce qui brille. Quand on voit ce que ça donne, soit plongé dans le noir. Peut-être qu'il nous faut ça pour y voir plus clair. Et sur nos zones d'ombre, vers la lumière. Let it shine. J'ai perdu le soleil, t'inquiète. Oh, let it shine. J'ai perdu le soleil dans la tête. Et si le monde.
FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Eh oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourishow.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Pas Thierry. Ah, il est dedans. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. L'équipe de France est championne du monde.
Il y a du monde, il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui. L'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe.
Cette douche froide nous est tombée un petit peu sur la tronche, on s'y attendait pas.
Quelle audace! Oh non, pas ça!
La frappe!
Oui!
Et la montée Ribéry! Nouvelle occasion! Juste avant la pause, pour ouvrir le score! Dans cette surface, Neuer, Griezmann,
Et la première. Présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et la première s'associent pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
Et oui, je suis actuellement
à l'arrêt au gare de Pearson, en route pour le Mexique, afin de participer à la foire du livre en français de Guadalajara au Mexique. Mais il me semble qu'on m'a posé un lapin. Quelques auteurs du regroupement des éditeurs franco-ontariens, franco-canadiens et les éditions prises de parole font partie du voyage. Et une auteure en particulier m'intéresse personnellement. Natacha Canapé-Fontaine, poète, interprète, comédienne, artiste en art visuel et militante pour les droits autochtones, fait partie du voyage. Et oui, elle est déjà au Mexique. Ah oui, pour présenter la réédition de son recueil « J'achève mon exil » pour un retour tremblant aux éditions prises de parole. D'ailleurs, elle nous a envoyé une petite note pour nous dire que ce recueil a éveillé l'intérêt de plusieurs maisons de poésie de Colombie et du Mexique. Même si elle a passé à quelques reprises à Toronto, je suis convaincu qu'elle est encore méconnue pour beaucoup d'entre vous. C'est une jeune femme autochtone qui a une liberté de parole incroyable. Elle ne se gêne pas pour parler des questions d'appropriation culturelle et d'attaquer ceux et celles qui tentent de se passé ou tente comme autochtone, et oui, uniquement pour la récupération mercantile. Natacha Canapé-Fontaine, une personnalité à surveiller, madame, monsieur. J'achève mon exil pour un retour tremblant aux éditions prises de parole.ca. À ne pas manquer dans la deuxième heure vers 12h35. Allô? Hola? Hola, que onda? Puis-je parler à Stéphane Cormier des éditions prises de parole? Gracias. Ah, qui suis-je? Ah, vous ne me connaissez pas? Eric Kader de CUTFM Toronto, Canada. Allô? Allô? Ayudez-me, por favor. Por favor.
Popourichou sur CUT 89,5 FM vous souhaite la bienvenue à Toronto, la ville la plus funky de l'Ontario et du Canada, avec plus de 150 ou 200 000 francophones, avec sa tour CN, la plus grande structure autoportante du monde. Que ce temps des fêtes soit un temps de partage, d'amitié, de solidarité. Et le dimanche 25 décembre, à ne pas manquer, Popourri Show vous promet une émission spectacle, une émission spéciale. Question de dresser le bilan de l'année, nos coups de cœur et nos coups de gueule pour 2022. Quel est selon vous l'événement qui a marqué l'année 2022? Allez, faites vite, écrivez-nous. popourri@cut.fm. Des petits cadeaux vous attendent, c'est promis. Et oui, de Radio-Canada, l'alerte à la fraude. Des messages sont taillés sur mesure, envoyés sur votre ordi ou téléphone intelligent, smartphone, pour appâter les Québécois, les Canadiens en général. Allez, faites très attention, surtout en cette période des fêtes. Et oui, tous les détails sur popourrichaud.com. Les employés de soutien des écoles de l'Ontario ont entériné l'accord de principe conclu le mois dernier avec le gouvernement de l'Ontario. Voilà, c'est fait. Mediarama Canada, qu'est-ce que c'est? Une grande réunion des médias francophones partout au Canada a eu lieu la semaine dernière à Ottawa. C'est l'heure du grand réveil, c'est l'heure de la grande mobilisation. Il faut compter sur les médias de proximité, les médias communautaires, les radios communautaires, a lancé le ministre québécois de la langue française, Jean-François Roberge. L'événement entend faire ressortir les bons coups des médias et de leurs partenaires, mais surtout mettre en lumière des pistes de solutions et des façons de faire novatrices qui permettront aux médias de langue française en milieu minoritaire de s'adapter. Ce premier événement a réuni une quarantaine de représentants des journaux locaux et des radios communautaires ainsi que des gestionnaires régionaux de Radio-Canada. De la plateforme numérique ONFR+, 33% des enfants francophones ne vont pas à l'école en français en Ontario. Eh oui, ce sont des données du recensement de 2021. C'est préoccupant, dit Trudeau.
Immigration, le jour où je suis devenu Canadien. Il s'agit de l'histoire d'un jeune Tunisien qui a vécu des aventures captivantes, époustouflantes dans son parcours d'immigration vers l'Amérique du Nord. Et chemin faisant, a acquis une nouvelle couche d'identité, la canadianité. Et oui, il dit, et je cite, « Face à des courants d'eau forts, des vagues furieuses et des requins féroces, j'ai appris comment me libérer, vaincre la peur de me noyer et naviguer des eaux inconnues. » Mais le sujet qui a surpris beaucoup de nos auditeurs et des professeurs et enseignants immigrants qualifiés et au chômage, c'est l'article du Journal de Québec. Dans certaines écoles du Québec, de l'Outaouais, eh oui, un prof sur deux n'a pas son brevet d'enseignement. Dans l'ensemble de la province, le nombre d'enseignants sans brevet embauchés en vertu d'une tolérance d'engagement s'est élevé à, tenez-vous bien, 4783 pour l'année 2021-2022, selon les plus récents chiffres. Il s'agit d'un sommet depuis que ces données ont commencé à être compilées par le ministère de l'Éducation du Québec. On apprend dans le même article que pour encadrer les nouveaux venus, des enseignants d'expérience sont libérés afin qu'ils agissent comme mentors auprès d'eux et qu'ils les accompagnent au quotidien. Eh oui, selon un enseignant très qualifié en provenance de l'Europe et qui veut garder son anonymat, cette histoire est un scandale. Et nous avons aussi reçu beaucoup de messages concernant le dernier rapport d'enquête accablant de la vérificatrice générale de l'Ontario sur l'université Laurentienne. Des décisions douteuses, abus de pouvoir, des magouilles et des salaires faramineux ne sont que quelques faits saillants de ce rapport. Alors nous attendons vos réactions à popourri@cut.fm. Dans un instant, le journal d'Haïti et des Amériques. Eh oui, Popourri Show remercie chaleureusement le Kepka et le Moi du Créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance remis à notre émission CUTFM. C'est toute une surprise. Eh oui, nous en sommes très honorés. Merci du fond du cœur. Merci en pile. Longue vie à la grande communauté créole de Montréal et du Canada. Joyeuse fête au Kepka et à la belle équipe. Le Mois du Créole à Montréal, très heureuse année 2023.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
À Port-au-Prince, c'est le journal d'Haïti et des Amériques présenté par Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Marion, merci. Ils décrivent l'enfer et dénoncent les coups et autres brimades subies. Témoignage d'Haïtiens aujourd'hui récemment expulsés de République dominicaine. Et notre invité, représentant du GAR, ONG, qui intervient auprès de ces hommes et femmes traumatisés. On revient aussi évidemment sur la majorité démocrate renforcée aux États-Unis après la sénatoriale de Géorgie, Christina Kirchner, la vice-présidente argentine condamnée pour corruption. Et puis le journal de la première avec le dossier chlordécone qui fait encore la une, Benoît Ferrand.
Et oui, l'éventualité d'un non-lieu dans cette affaire d'empoisonnement de toute une population continue à susciter l'indignation aux Antilles. Des rassemblements de protestation sont d'ailleurs prévus ce samedi en Martinique et en Guadeloupe.
On en parle dans une quinzaine de minutes ensemble. Bienvenue à tous.
RFI à Saint-Domingue, 90.9 FM.
L'ONU, par la voix de son haut commissaire aux droits de l'homme, s'en est ému le mois dernier, appelant Saint-Domingue à arrêter les renvois forcés d'Haïtiens. Mais force est de constater que cet appel est resté lettre morte. À tour de bras, la République dominicaine renvoie en Haïti manu militari, femmes, hommes et enfants qui se trouvent sur son sol en défendant, en matière de politique migratoire, sa souveraineté territoriale. De septembre à courant novembre, ils sont ainsi plus de 56 300 Haïtiens à avoir été expulsé du territoire dominicain. Comme cet homme qui a confié son témoignage au micro RFI de Rosemary Matt Janis. On l'écoute et on retrouve pour en parler ensuite notre invité.
Les forces de l'ordre m'ont arrêté et emprisonné. J'ai laissé Haïti à cause de la misère, mais en République dominicaine, j'ai connu le pire. C'est de la souffrance. On fuit les maisons où l'on vit pour se cacher dans les bois. On a tout perdu. Les agents m'ont frappé si fort que j'ai dû me rendre à l'hôpital.
Bonjour, Karl-Henri Petitfrère.
Bonjour.
Vous êtes un des coordonnateurs du GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, le GAR qui nous donne ce chiffre de plus de 56 000 expulsions. Ce témoignage que l'on vient d'entendre, est-ce que c'est un cas isolé ou bien il reflète ce que vous constatez, vous, le GAR, sur le terrain? Je précise que vous intervenez notamment au niveau de la ville frontalière de Bel Ader.
Alors, on a beaucoup d'Haïtiens qui sont rapatriés, mais aujourd'hui, cela s'est fait de façon bizarre. Parce que les gens sont pris de force dans leur maison et on a eu des cas de femmes avec des enfants qui ont été à nos bureaux au niveau de Bel Ader. Donc cet homme qui vient de dire qu'il a été tabassé, c'est pas un cas isolé car cela arrive à beaucoup de gens. Et malheureusement, il n'y a pas que les personnes en situation irrégulière, car il y a des gens qui ont leur passeport, leur visa, et qui malheureusement étaient aussi victimes et mis dans les cages.
Oui, alors justement, je vous propose d'écouter un autre témoignage d'un autre Haïtien récemment expulsé.
Non, pas c'est Junior. Mon tabu Saint-Domingue.
Je m'appelle Junior, je vivais à Las Américas, en République dominicaine. Alors que je travaillais, les agents de la migration m'ont demandé de leur montrer mes papiers. Quand je les ai sortis, ils les ont déchirés. Ils m'ont embarqué et m'ont conduit au commissariat. Arrivé au commissariat, j'ai voulu comprendre ce qui se passait et je leur ai demandé pourquoi ils m'avaient arrêté. L'un d'eux m'a répondu que j'étais haïtien et que je ne pouvais rien réclamer. L'autre m'a frappé au niveau de la bouche avec son arme, j'ai perdu 8 dents. J'ai laissé ma famille en République dominicaine qui ne sait pas où je suis.
Karl-Henri Petitfrère, ce témoignage, il corrobore ce que vous venez de nous dire. Des Haïtiens qui ont des papiers, comme cet homme, qui travaillent, Saint-Domingue n'en tient pas compte et expulse quand même.
En fait, c'est la réalité d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est une chasse aux sorcières. Donc une fois que vous êtes Haïtien, et particulièrement noir, vous êtes en but à des rapatriements, des expulsions. Donc c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a cette haine qui remonte à la surface, qui ressurgit, car il y a très longtemps déjà, il y avait un massacre des Haïtiens. Et malheureusement, le gouvernement dominicain, je dirais une grande partie, juste pour plaire à l'oligarchie dominicaine qui est anti-haïtienne. Donc, il y a ce message qui est véhiculé aujourd'hui, même dans l'opinion publique dominicaine. Donc, on sent qu'il y a une certaine haine à l'endroit des Haïtiens. Donc c'est quelque chose qui arrive tous les jours, les gens sont battus, maltraités et mis en prison sans qu'ils aient à répondre à des questions.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
L'éventualité d'un non-lieu dans l'affaire du chlordécone continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive aux Antilles.
Et oui, des rassemblements de protestation sont d'ailleurs prévus ce samedi en Martinique et en Guadeloupe. Par ailleurs, un recours a été déposé pour contester la notion de prescription dans cette accusation d'empoisonnement de toute une population. Explication Christelle Martial, la première Guadeloupe.
D'abord, et selon le texte déposé, parce que cette infraction est intemporelle et qu'elle se poursuit encore aujourd'hui. Autre raison de contester la prescription, le fait que l'empoisonnement ait été caché au grand public, alors même que la toxicité du pesticide était bel et bien connue des autorités. Il y aurait donc eu manœuvre pour cacher la vérité. Selon les avocats des associations, la prescription de l'action publique peut être suspendue dans ce cas de figure, comme elle l'a été dans d'autres affaires. Des manœuvres jugées frauduleuses pour cacher la vérité, la disparition de certaines pièces du dossier ou de preuves, ou encore le retard de publication de certains rapports. Autant d'obstacles qui n'ont pas permis aux plaignants d'entamer une action en justice avant 2005, un an après la révélation publique de ce scandale sanitaire. En clair, la prescription ne peut s'appliquer à une victime qui ignore qu'elle est victime. Il était donc impossible aux Guadeloupéens et aux Martiniquais de saisir la justice avant même que l'action ne soit née. Aussi, conclut cette requête, il ne peut être reproché aux parties civiles d'avoir tardé à déposer plainte. C'était en 2006.
Direction maintenant la Martinique, où la montagne Pelée est entrée en éruption ce matin. Pas de panique, il s'agit d'un exercice. Un exercice d'évaluation du plan d'évacuation récemment validé par la préfecture. Denis Adnet-Louvet.
C'est ce plan hors sec qui sera évalué à travers une vaste répétition aujourd'hui. De 7 à 17 heures, l'ensemble des acteurs de terrain pressentis pour intervenir sont mobilisés. L'axe d'intervention qui sera plus particulièrement évalué, c'est l'évacuation des populations. Deux communes du Nord ont été ciblées pour l'occasion, le Morne-Vert et le Lorrain. Des centaines d'habitants seront transférés loin de la zone rouge, en l'occurrence vers des centres d'hébergement du François, mais aussi des Anses d'Arlée. Dans le même temps, d'autres communes qui ne seront pas impliquées dans cet exercice d'évacuation vont quand même activer et tester leur plan communal de sauvegarde. Aussi, si vous entendez hurler des sirènes, pas de panique, elles seront déclenchées uniquement dans le cadre de cet exercice.
Rappelons, Michael, que la montagne Pelée, qui a détruit la ville de Saint-Pierre en 1902, est un volcan toujours actif. Sa dernière éruption remonte à 1932. Bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver sur RFI.fr et sur toutes les applications de podcast. Bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
C'était la veille de Noël et dans notre logis, tout le monde s'était endormi. Même les souris.
Devant la cheminée, les chaussettes étaient là, attendant l'arrivée du bon Saint-Nicolas.
Oh, 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 oh. Vous m'avez fait peur, non, non, du calme, non, 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 attendez.
Mais qui êtes-vous?
Santa Claus.
Tout était différent.
Tous ces enfants sont devenus des adultes qui ont cessé de croire.
Je perds mes pouvoirs magiques. Alors, pour le bien du réveillon de Noël, je prends ma retraite.
Je savais même pas que tu pouvais la prendre.
Je crois qu'il faut qu'on voit le reste du monde comme des gens normaux.
J'ai une liste des choses que je veux faire. Je voudrais parler avec un chauffeur d'autocar.
Wow, Sandra, je t'avais dit que j'étais différent ici. Je suis ton père, c'est moi. Je vais prendre un rigolocino. Mettez du cacao au lieu du café. Aussi un bonbon à la menthe si vous avez des morceaux de cookies et du sucre.
Un nom pour la commande?
Le Père Noël, Santa.
Ce boulot est déjà assez dur comme ça.
Oh, oh, oh. Pour la première fois, je m'apprête à passer Noël avec ma famille.
À Paris... Savez-vous trouver de bonnes baguettes à la française à Toronto? Écrivez-moi, popourri@cut.fm. Allez, faites vite! J'ai aussi de la bonne pâtisserie française pour vous. Et oui, c'est fait, une nouvelle qui a fait le tour du monde. Même Emmanuel Macron a osé brandir une baguette lors de sa visite aux États-Unis. D'ailleurs, nous y reviendrons sur cette fameuse visite et la francophonie en Louisiane. 250 grammes de magie et de perfection, la baguette de pain emblème dans le monde de la vie quotidienne des Français, menacée par l'industrialisation, a été inscrite la semaine dernière au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Félicitations à la France! C'est une reconnaissance pour la communauté des artisans boulangers, pâtissiers. Ma chère collègue Sylvie Coffi à RFI est allée faire un tour dans une boulangerie à Paris que je connais très bien. Allez, à vous Michel Ponge et Sylvie Coffi, RFI.
Avec sa croûte croustillante et sa mie moelleuse, véritable emblème et caricature aussi des Français à travers le monde, la baguette aujourd'hui rentre au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une fierté, Sylvie Coffi.
Une bonne baguette, elle ne doit pas être ni trop blanche ni trop cuite, et il faut que ce soit un peu aérien, la mie de pain.
Cette mère de famille, deux baguettes sous le bras, vient tous les jours chez son boulanger. Saad Zersour est artisan. Il nous livre le secret d'une baguette réussie.
C'est de l'eau, de la farine, du levain ou de la levure et du sel. Et une bonne baguette, c'est quand on touche la pâte, l'élasticité de la pâte, la force de la pâte. C'est ça qui va nous dire si notre baguette, elle va être belle ou pas. Ça, c'est pas le temps qu'on passe à la façonner dans l'instant présent. C'est le temps qu'on a mis pour apprendre à apprivoiser les ingrédients qu'on utilise.
Est-ce que vous parlez à la pâte ?
Nous, on lui parle pas, mais elle nous parle. Et si on sait pas l'écouter, c'est là qu'on a des problèmes.
Et l'avoir inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qu'en pense-t-il ?
D'après moi, ça va pas changer beaucoup de choses. Mais ça va être une consécration pour nous. Partout où on va, quand on parle de la baguette, on parle de la France.
Chaque jour, ce sont près de 12 millions de Français qui achètent une baguette de pain.
On achète la baguette, on aime croquer le quignon. On mordille, ça croustille et ça griffe le menton. On recroque, on suffoque, le morceau est un peu gros. On avale, on se régale, on prend un autre morceau. On boulotte, on grignote, la baguette raccourcie. On divise, on égalise, on mastique sans souci. Quelle honte, on se rend compte qu'on a presque tout mangé. On doit même, quel problème, retourner chez le boulanger. On rachète la baguette, on aime croquer le quignon. Ah ben non, pas deux fois tout de même. Croque, on suffoque, le morceau est un peu gros. On avale, on se régale, on prend un autre morceau.
RFI, toute la diversité du monde.
Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourichaud.com, 25 ans, ça se fête.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24. Quatre chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles. Hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
CUT FM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021.
toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. 2022, Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire, eh oui. Et Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et surprises. Stromae, lors de son passage à Toronto le 29 novembre, capté sur le vif par une auditrice. Merci mille fois. C'était l'unique concert dans la ville reine. Salle comble, tout le monde chantait, oui, à l'unisson. Une ambiance fort formidable. Dans un instant, le livre du jour avec aujourd'hui une jeune femme formidable, Natacha Canapé-Fontaine. Elle est poète, peintre, comédienne et militante inoue. Et j'ai entre mes mains son dernier recueil, « J'achève mon exil pour un retour tremblant » aux éditions Prise de Parole. Tous les renseignements sont sur le site prisedeparole.ca. Allez faire un tour, voilà une idée cadeau, madame, monsieur. Je rappelle qu'elle est très populaire, pas seulement au Québec, mais aussi en Colombie et au Mexique, où elle participe actuellement avec les éditions Prise de Parole à une foire du livre. Il y a un an, Natacha Canapé-Fontaine a été au cœur d'une controverse entourant l'appropriation culturelle du titre de l'émission Pow Wow à la télévision de Radio-Canada. Elle estimait que ce terme, qui désigne un rassemblement spirituel, risquait d'être vidé de son sens s'il était utilisé dans une émission de variété commerciale. Pow Wow avait aussitôt été rebaptisé Stéréo Pop. Nous entendrons la voix de Natacha Canapé-Fontaine. Elle nous livrera son parcours, ses luttes, ses ambitions et ses craintes en tant que jeune femme inoue au Québec, au Canada. Le livre du jour, une présentation de la maison d'édition Prise de Parole. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca. La tente s'ouvrait sur une aurore blanche, œuvre immaculée, inédite peut-être. Le canot camouflé de sable avait des allures fières, le purifier. Il nous conduira demain dans le Nitassinan. Allez, viens. C'est avec ce premier recueil publié sous le titre « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures » publié aux Mémoires d'Encrier en 2012, que Natacha Canapé-Fontaine a fait entendre sa voix. Ce même recueil a été réédité par Prise de Parole, coiffé d'un nouveau titre et enrichi d'une postface dans la collection Vivat. Lauréat du prix des écrivains francophones d'Amérique, le recueil est une superbe porte d'entrée qui permet de renouer avec l'écriture de Canapé-Fontaine et ses débuts. Une écriture de l'identitaire et de l'intime qui préfigure déjà la démarche militante qui s'affirme dans ses œuvres subséquentes. Véritable plongée à l'intérieur de son âme, chaque poème est à la fois un cri du cœur et une immense dose de tendresse. Cette dualité entre souffrance et bienveillance est caractéristique de son écriture. Avec un lexique charnel, corporel, elle invite le lecteur à le suivre dans ses premiers rapports avec le territoire et sa quête des origines. Deux étapes cruciales pour sa renaissance comme femme Innu. J'achève mon exil pour un retour tremblant aux éditions Prise de Parole. Place à Natacha Canapé-Fontaine, poète, interprète, comédienne, artiste en art visuel et militante pour les droits autochtones.
Oui. Mon nom est Natacha Canapé-Fontaine et je suis Innu de Pessamit, Québec. Dans l'époque d'aujourd'hui, en tant que femme autochtone, je me sens toujours à la recherche d'identité, surtout à l'âge que j'ai 21 ans. J'essaye de définir c'est quoi être femme tout d'abord. Puis je nage encore en plein là-dedans. Mais en plus d'être autochtone, on finit par apprendre l'histoire, par se conscientiser, puis se rendre compte qu'à quelque part, il y a beaucoup d'injustice. L'injustice qu'il faut dénoncer. Puis une identité à refaire là-dedans. Puis lier les deux, c'est comme recevoir une mission par ta naissance. T'es née femme, puis t'es née autochtone. C'est à toi de faire le chemin après. C'est à toi de décider où c'est que tu t'en vas. Puis où c'est que tu veux mener l'identité, jusqu'à où il faut le définir. Peut-être que c'est juste moi qui le vois comme un combat, mais je pense que oui. Parce que c'est du chemin à faire, c'est du travail. Quand tu décides de dénoncer l'injustice, des choses qui se font un peu dans le noir, puis que personne ne sait, ça devient une bataille parce que ça te prend toute ton énergie. Moi, j'écris, ça me prend quasiment tout le sang que j'ai à l'intérieur, tu sais, pour réussir à exprimer ce que je ressens. Ce qui me met hors de moi, c'est de voir que déjà la femme est à un niveau un peu inférieur à l'homme. Puis les Autochtones sont déjà à un niveau inférieur de la majorité des gens qui vivent au Québec, au Canada. Même partout dans le monde. Ce qui me met hors de moi, c'est de voir qu'on n'arrive pas à respecter le droit humain de chaque personne, juste parce que c'est une race, juste parce qu'il est différent, il y a une autre couleur de peau. Je comprends pas. C'est des choses que je comprends pas. Puis, en parlant, je voudrais qu'il y ait des gens qui me le fassent comprendre. Puis qu'après, ils soient sensibilisés à ça. La différence avec mes grands-parents, je pense que c'est le fait que mes deux grands-mères ont vécu en couple. C'est dans ce temps-là, il fallait se marier, puis fonder une famille, puis après s'occuper des enfants et tout, puis ça prend toute une vie faire ça. Aujourd'hui, je me sens pas obligée de me marier, c'est la mentalité est différente, on est un peu plus affranchis là-dessus. Puis aujourd'hui, je dirais que je suis toute seule là-dedans. Il faut que je décide moi-même ce que je vais faire de ma vie, quelles études je vais faire, quelle direction je vais prendre. Je pense que c'est là la différence. Ce que mes grands-mères m'auraient donné, je pense que justement, c'est de foncer. J'ai une grand-mère, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie, puis elle a été quand même assez loin, elle a fait plusieurs métiers. Puis je l'ai tout le temps admirée là-dedans. Puis ça fait une décennie, ça fait une dizaine d'années qu'elle est décédée, puis j'ai toujours gardé ça en tête, de vouloir me rendre jusqu'où elle a été. De montrer l'exemple par la suite aussi, puis de vouloir perpétuer une mémoire comme elle a fait. De vouloir donner un héritage, de ramasser cet héritage-là, puis de pouvoir le donner aux autres après. Mes grands-mères, je les connaissais pas beaucoup, mais j'y vais tout le temps par mes souvenirs. Puis ce qu'elles m'ont laissé, c'est vraiment le courage d'avoir été jusqu'au bout de la maladie, jusqu'au bout des choix qu'on a pris, mais aussi la langue. Pourquoi j'ai choisi le slam, je suis encore en train de me le demander, parce que ça m'est tombé dessus par hasard. J'ai été à une soirée, puis depuis j'ai tout le temps... J'ai eu envie d'écrire. Au début, j'écrivais des choses que je ressentais, tu sais, plus personnelles. Mais à un moment donné, il y a vraiment des choses qui m'ont touchée, que j'ai décidé d'écrire, tu sais, plus des choses de l'extérieur, puis ce que je ressens par rapport à ça. Je pense que c'est après que j'ai choisi le slam, un peu par hasard, pour continuer dans cette voie-là. C'est sûr, j'aimerais chanter, j'aimerais ça, écrire plus, tu sais, de la poésie, mais le slam, c'est une parole qui va droit au cœur tout de suite, tu sais, ça passe pas par un papier, ça passe pas par de la musique, ça passe par la voix. Une façon d'écrire aussi qui fait que la personne accroche à ce que tu dis. Le slam, c'est de la poésie, mais on a tendance à le rapprocher avec le rap ou le hip-hop à cause du rythme qu'on met là-dedans. Il y en a que c'est pas de la poésie, c'est juste des mots, mais tu sais, des mots qui se chevauchent, des sons, ça devient une musique des mots qui arrive tout de suite dans les oreilles, sans trop de bruit, tu sais. On n'a pas vraiment besoin d'accessoires. Puis souvent, dans les compétitions, c'est parce qu'il y a des compétitions de tout ça, c'est selon le temps, selon le rythme. Si tu vas trop vite, ça ne marche plus. Tu sais, c'est... faut que le spectateur entende, reçoive bien, tu sais, ton texte. Mon style de slam, c'est beaucoup... ça part d'une recherche, justement, de se rapprocher du sentiment de lutte. Au lieu d'en rester là, puis de juste en parler de ce que je veux parler, de ce que je veux dénoncer, je vais mettre l'accent dessus, je vais mettre une voix plus grave, tu sais, je vais descendre ma voix, puis je vais vouloir qu'on m'entende. Je veux qu'on m'entende, tu sais, je porte une rage, je porte une colère parce que je la partage avec les gens qui sont, j'irais, indignés. Donc, c'est là que je vais chercher ça. Un de mes plus grands rêves, ce serait qu'on soit tous égaux. Qu'il n'y ait pas de différence, qu'il n'y ait pas d'infériorité ou de supériorité d'une race à l'autre. Vu qu'on vit tous sur la même planète, puis souvent dans la même société, Première Nation, puis les Québécois, ils se côtoient depuis longtemps, puis il y en a qui se regardent à peine. Je comprends pas. Alors que moi, dans ma façon de vivre, avec tous mes amis, ma famille, on est tous humains, on a toutes nos peines, on a tous nos bonheurs, nos qualités, nos défauts, tu sais. On n'a pas un pied, je trouve ça plus beau quand on a plusieurs couleurs de différence. Tu sais, j'ai des amis de toutes sortes, de toutes sortes de, qui viennent de partout. Je trouve ça beau, tu sais. Le Québec est métissé, puis on devrait se le dire, on devrait le savoir, tu sais. Je parle beaucoup de peine dans ce que je fais parce que, tu sais, nous, les Inuits, on a tendance à chanter des chants de paix. Juste chant de paix, ça vient me chercher. Il y a le chant qui est là pour apaiser l'esprit et la paix qui suit tout de suite après. Je rêve de paix parce que à un moment donné, se faire la guerre, ça fait juste mal et ça sert à rien. Ça fait juste empirer les relations, tu sais, juste entre personnes. Qu'est-ce que je dirais aux jeunes filles? C'est tout d'abord de rêver. Parce que souvent, dans ce conflit difficile, on oublie que ça existe, tu sais, de rêver. C'est sûr, on rêve la nuit, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de ça? On rêve les yeux ouverts, mais est-ce qu'on peut se rendre jusqu'au bout de ça? Moi, j'ai cru. Parce que j'ai tout le temps rêvé grand. Puis des fois, on fait juste tendre la main vers son rêve, puis des fois, on l'atteint. Parce qu'il n'est pas si loin que ça. Puis, s'il est plus loin qu'on pense, mais faut aller plus loin. Pourquoi je suis là, moi, nous, c'est la raison est simple. Moi, j'ai grandi en ville. Je dis que je viens de Pessamite, mais j'ai même pas grandi là. C'est vraiment par sentiment, par besoin d'appartenance que je viens de là. J'ai grandi en ville. J'étais à l'école avec d'autres jeunes de mon âge, mais c'était chez les Québécois. Puis, je sais que de ma naissance, jusqu'à temps que je déménage de Pessamite, je parlais juste inou. Je parlais aucun mot français. Quand j'ai rentré en maternelle à Baie-Comeau, c'est là qu'on m'a appris à parler français pour pouvoir communiquer avec les autres. Puis, avec le temps, j'ai fini par le perdre. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte de qui j'étais, que j'étais inou, que j'étais... que j'étais amérindienne au fond, tu sais, je regardais pas comme tasse, j'étais comme, oh, tu sais, j'aimerais ça être indienne, puis me déguiser comme ça, mais tu sais, me déguiser. Mais sinon, à un moment donné, je me suis rendu compte, c'était quoi? Puis après, je suis devenue consciente de la place, tu sais, de l'autochtone, de ce qui manque aussi. Puis, slammer en inou, c'est ma façon à moi de me réapproprier les rêves. Slammer en inou, c'est ma façon à moi de me réapproprier ma langue, ma culture, mon héritage, mon territoire aussi. Parce que la langue aussi est une sorte de territoire. On en est dit la territorialité, là, je trouve que c'est tellement un bon mot. Ça vient exprimer comment je vois ça. Puis je suis fière. J'ai l'impression que j'ai un accent quand je parle inou, mais je suis fière quand même de pouvoir le parler. Souvent, c'est des phrases qui me viennent, moi. C'est des souvenirs que j'ai qui me reviennent, puis j'arrive à l'écrire. Tu sais, des fois, je demande un peu des conseils puis de l'aide. Mais après, j'arrive à m'en rappeler, puis d'année en année, je parle de plus en plus inou. Puis je suis totalement heureuse de ça.
Quel est le songe que je dois faire? La vision transparente un matin, le chant mort des oiseaux. Les immeubles crépitent dans la cassure des neiges. Ils ne savent pas attiser une flamme avec leurs ongles. Elle éblême la neige jadis. Elle arborait un visage de ciel de mer. Quel est donc le manifeste que je dois vous écrire? Ma terre, je la prendrai dans ma main. Je la soignerai avec un pan, ma jupe, essuiera ses larmes noires, mes cheveux, ses joues creuses. Je la bercerai en ses tremblements. Je ne dors plus, l'endormirai sur mes genoux et saluerai mes ancêtres de la main avec le bégaiement, l'enfant à naître que je suis.
Et oui, nous venons d'entendre Anna-Tashé Canapé-Fontaine, poète, interprète, comédienne, artiste en art visuel et militante pour les droits autochtones. Une auteure à surveiller, madame, monsieur. Elle est l'auteur du recueil « J'achève mon exil » pour un retour tremblant aux éditions Prise de Parole. Et oui, c'est un petit recueil à déguster sans modération que vous retrouverez sur le site web des éditions prisedeparole.ca. Voilà un très beau cadeau à offrir lors du temps des fêtes à vos amis qui méconnaissent peut-être encore la richesse des cultures autochtones du Canada. Et puis, nous avons entendu la voix de Natacha Canapé-Fontaine lors d'une lecture d'extrait de Manifeste assis au festival Poèmes en cavale à Nantes, en France. C'était plus précisément le jeudi 4 juin 2015. Popourri Show, CUT, 89,5 FM, Toronto, 35 ans. Des aventures inédites, des expériences insolites, des initiatives positives, des découvertes incroyables et des projets fous. Et merci à nos amis du Cap-Ca et le Mois du Créole pour le beau prix de reconnaissance. Deux prix merveilleux en cette fin d'année, année anniversaire de la radio et de notre émission Popourri Show. 35 ans. Merci à monsieur Pierre Roland Bain, fondateur et ex-président visionnaire du Cap-Ca à Montréal. Vous êtes nombreux à nous écrire pour nous en féliciter. Et oui, ça vient de partout, de l'Allemagne, de l'Australie, de Montréal, de l'île Maurice, de Toronto, de l'île de la Réunion, de France, d'Ottawa, et oui, du Québec, la ville de Québec. Je lirai vos commentaires, c'est promis, dimanche prochain, nous en avons pas du temps aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Moment émouvant, vendredi et samedi, pour les funérailles de notre ami Darna Satoru, décédé le 19 novembre. La communauté et les collègues de la Toronto French School étaient nombreux au rendez-vous. Et oui, Jean-Marie Vianney, directeur exécutif M9 Media Group Afrique Plus, nous envoyait un long message. J'en lis un extrait. « C'est avec beaucoup de regrets et d'amertume que j'apprends le décès de Darna. » Que dire de Darnas? C'était un homme bien avec qui j'ai eu à travailler sur plusieurs projets au sein de la communauté. C'est une énorme perte pour notre communauté et que son âme repose en paix. Mes sincères condoléances à sa famille. Actuellement à Amman en Jordanie, je voudrais remercier toutes les petites mains et personnes impliquées pour l'accompagner avec dignité dans ses derniers jours sur Terre. Tu vas nous manquer, cher Darnas. Doux repos. De notre grand ami, membre de la radio, professeur et poète Eddie Bouraoui, qui nous envoyait un autre message. Hommage aux frères et à l'ami, à la mémoire de Darnas. Darnas Tourou, tchadien d'origine et professeur à la Toronto French School. Je l'ai rencontré chez notre amie Jocelyne Labrette, française, orléanaise, qui nous invitait à dîner chez elle une fois par mois. Je ne manquais jamais d'apporter un vin Bordeaux de ma région. D'adolescence, un lien indéfectible s'est tissé entre Darnas et moi. Nous étions tous les deux africains. Et nous en avions gardé des liens. Depuis ce temps d'acquaintance, je ne l'ai plus revu, mais nous avions gardé le contact par échange de courriels. Surtout en parlant de ce qui se passe dans nos pays d'origine respectifs, le Tchad et la Tunisie, à chaque fois qu'il y a une crise. Il commençait toujours par « cher doyen, par respect de mon âge », épousant la tradition africaine dans sa façon de voir le monde. Une forte affection fraternelle nous liait au-delà de tous les temps. Que son âme repose en paix et que Dieu Tout-Puissant le reçoive. Dans sa grâce, Darnas est parti pour le dernier voyage, mais il reste toujours vivant en nous et sans ombrage. Signé Eddie Bouraoui, Toronto, le 4 décembre. Merci à Jean-Marie, professeur Eddie Bouraoui, oui, merci mille fois. C'est émouvant, j'espère qu'on s'en souvienne longtemps de la vie de cet homme sur cette terre à Toronto. Voilà un autre grand francophone qui disparaît de la scène en 2022. Que son âme repose en paix. Et rapidement, du Salon du Livre de Toronto, le 13 décembre, à ne pas manquer, mesdames, messieurs, sur le site du Salon du Livre, vous êtes cordialement invités à l'Assemblée Générale Annuelle. C'est prévu le 13 décembre de 18h à 19h. Il y aura vin et fromage. Pour contact, Valérie Vlad, 416-558-9435. Vous retrouvez tous les liens sur notre site popourichaud.com. De la Société d'Histoire de Toronto, 14 décembre, rendez-vous à ne pas manquer à 19h, conférence de la Société d'Histoire de Toronto. Suzanne Simon-Baptiste. On est la conférencière, l'ouverture, sa déportation et sa vie en France. Ce sera au théâtre de l'Alliance française de Toronto. Et oui, 24 chemin Spadina, métro Spadina, conférencier Gabriel Ausson, écrivain. Et donc, vous pouvez voir tous ces renseignements sur le site de l'Alliance française de Toronto. Les activités de Sophie France, Solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara, vous donne rendez-vous le 17 décembre pour le réveillon de fin d'année. Et oui, pour terminer l'année en beauté, il y aura plusieurs artistes au rendez-vous. Et on lance un appel aux donateurs, donatrices, partenaires, amis de la communauté pour un don ou un cadeau pour Noël aux enfants issus des communautés immigrantes. Vous retrouverez tous les liens sur notre site. Allez-y, il y a plusieurs activités d'ailleurs qui se déroulent sur le site de ciné de Sophie Franck dans la région de Welland et Niagara. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage intercontinental. Merci à Natacha Canapé-Fontaine et les éditions Prise de Parole, Emmanuel Kera de la librairie francophone, DJ Devora, Le Capca et tous les techniciens de CUTFM à Hot House, à Studio Toronto. Pour ma part, je m'en vais pour le Festival des Trans Musicales de Rennes. Rennes, parmi la centaine d'artistes de la programmation 2022, focus sur 5 artistes coup de cœur de la rédaction que vous retrouverez sur notre site popourishow.com. Allez, Sénégalais, Brésil, Marocains et Portugais ont impressionné le monde entier lors des matchs de la Coupe du Monde du foot. Je vous laisse avec une petite compilation des meilleures chansons de la Coupe du Monde. Soyez-y pour la finale le 18 décembre sur RFI Café Sport. On démarre avec Romy Angelo, Allez les Bleus, musique officielle de la Coupe du Monde 2022 de France. Allez les Bleus, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao, ciao.
Allez les Bleus, allez les Bleus, on va la gagner, la Coupe du Monde, on va la soulever, tout le monde vous savez, on est pour qu'on va la gagner, la Coupe du Monde on va la soulever, et trois étoiles, let's go. Quand tu vas ta cible. Allez les Bleus, on est derrière vous. Allez les Bleus, on prend vous.
À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. We'll be right back.
mostrar.